trouve dans 1 Corinthiens 14. Ça va comme ça, ce n'est pas trop fort. Vous entendez bien? Ça va. 1 Corinthiens 14, verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous en cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Au verset 6 maintenant, du même chapitre. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous le parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voyez-vous, je peux vous prêcher par révélation. C'est ce que j'ai fait à Georges l'autre soir, quand je lui ai révélé ce que le songe de Dieu lui avait, ce que Dieu lui avait communiqué au travers du songe. Par connaissance, c'est-à-dire en apprenant les choses, je peux ensuite vous les répéter. Par prophétie, c'est-à-dire que je peux vous prophétiser quelque chose, c'est-à-dire la prophétie, d'après dans le Nouveau Testament, sert à consoler, à instruire, à reprendre en toute douceur et avec amour, mais aussi à annoncer des choses de l'avenir, et par doctrine, c'est-à-dire je peux prendre par exemple un sujet, n'importe lequel de la Bible, par exemple la guérison, et vous faire un exposé sur la guérison, et vous citer tous les textes, et vous expliquant la doctrine de la guérison. Il y a la doctrine du salut, la doctrine du baptême, la doctrine de la guérison, la doctrine de la sanctification, la doctrine d'imposition des mains. Tout peut être une doctrine, n'est-ce pas? La doctrine, c'est l'ensemble des textes qui concernent une même chose. Bien, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler par révélation, je ne vais pas vous parler par doctrine, mais je vais vous parler par connaissance et prophétie. Pourquoi je vais vous parler par connaissance et par prophétie? Parce que hier, après m'être mis dans la prière, un long moment, je me suis installé à ma machine à écrire et j'ai tapé un message prophétique pour vous. Ce message-là, je vais vous le lire parce que je serai incapable de vous le reprophétiser comme je l'ai fait hier en me tapant à la machine. Je serais incapable d'être aussi précis, je pourrais vous donner les grandes lignes, mais je ne pourrais pas vous donner tous les détails. Je fais une cassette de cela, et vous pourrez la prendre chez vous et étudier ce que Dieu m'a donné pour vous. C'est un message qui est aussi un message de prophétie selon la doctrine biblique, c'est-à-dire que cela ne sort jamais de l'enseignement biblique. Une prophétie doit être selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon ce qui est écrit. Si une prophétie va contre ce qui est écrit dans la Bible, c'est une fausse prophétie, ok? Et ce que je vais vous dire ce matin est un message de Dieu pour vous consoler, vous reprendre, vous exhorter en tout amour, en douceur, mais quand même avec fermeté. Alors, tout le texte que je vais vous lire est ponctué de textes bibliques. Je vous recommande de vous procurer la cassette. Je ne sais pas si on aura assez de cassettes vierges pour que tout le monde puisse en avoir aujourd'hui. Mais nous allons essayer de le faire, de sorte que chez vous, vous puissiez étudier ça correctement. Vous voulez bien le faire? Donc, je ne viens pas à vous en vous parlant dans un langage de barbare, mais vous pourrez comprendre ce que j'ai à vous dire, et ce que j'ai à vous dire n'est plus enseigné maintenant dans les églises. C'est un message qui a été oublié, complètement oublié. Je vais lire maintenant dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et verset 37. Il y a 24 heures pour parler entre vous, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, le peuple, ils eurent le cœur vivement touché Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Pierre venait de prêcher en public. Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Chapitre 4, verset 32. Vous y êtes ? Chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Pourquoi cette chose est dite? C'est parce que les Lévites, d'après une loi éternelle de l'Ancien Testament, n'avaient pas à posséder des choses en propre, et lui, il en possédait en propre. Mais quand il est venu à Jésus, il a tout donné aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il s'est vraiment converti. Bien, je vais maintenant vous lire ce que j'ai écrit sous l'onction hier du Saint-Esprit. Et encore tard, dans la nuit, Michou finalement me disait « Mais quand c'est que tu vas arrêter ?» Ça résonne dans toute la maison. Et voilà ce que je vais vous lire ce matin. Je vous prie de m'écouter attentivement. Je lirai lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je vous en supplie, écoutez ce que je vous dis. Ne vous laissez pas distraire. Ne parlez pas entre vous. Attendez de le faire pour cet après-midi, si vous voulez. Mais ce matin, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est très important. Pourquoi nous vivons en communauté ? Il est normal que vous sachiez bibliquement pourquoi nous vivons en communauté. Bien des gens désirent vivre en communauté pour les avantages qu'on y trouve. Je vous demande de prier avec moi. Seigneur, je te prie pour que ce message ce matin puisse toucher les cœurs vivement et que chacun puisse réagir spirituellement à l'écoute de ce message. Père, je te prie que tout esprit d'incrédulité quitte les cœurs dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Bien des gens désirent vivre en communauté pour les avantages qu'on y trouve. Par exemple, ils pensent que cela résoudra leurs problèmes de solitude, ou ils pensent qu'ils auront moins de responsabilités de gestion. D'autres pensent qu'au milieu d'une communauté, ils pourront développer leurs dons ou leurs talents qu'ils ne peuvent mettre en pratique en étant seuls. Tout cela est fort bien, mais ce qui doit motiver un enfant de Dieu à venir vivre dans la communauté, c'est d'abord l'enseignement de Jésus. Parce que lorsque cette personne se trouvera dans la communauté, biblique, elle aura de nouveaux problèmes à résoudre. Et si sa décision de venir vivre dans la communauté n'est pas solidement établie sur l'enseignement de Jésus-Christ, elle ne sera pas ferme dans son épreuve de sa foi et trouvera un prétexte pour affirmer que ce n'était certainement pas la volonté de Dieu qu'il ou qu'elle vienne vivre dans la communauté. Ce qui nous permet de vivre ensemble, ce n'est pas que nous nous aimons très fort, ni que nous avons des atomes crochus, mais c'est uniquement par la foi dans ce que Jésus dit dans la Bible. Donc, voilà pourquoi je vous parle à ce sujet, afin que vous ne soyez pas dans l'ignorance biblique de ce que nous vivons. Premièrement, vous devez savoir que nous vivons dans une époque qui est l'époque finale de l'histoire des hommes, et que Dieu veut révéler à son peuple sa suprême volonté au sujet de son plan divin. Au début de l'Église, les premiers chrétiens vivaient tous en communauté. Et ce qui s'est passé au début doit se refaire avant la fin pour accomplir la volonté de Dieu. Les croyants vivaient ensemble dans des maisons. Leur troupe était appelée l'Église. Le mot « Église » vient du mot grec « ekkaleo » qui veut dire « appelé hors d'eux ». Étienne, le disciple, parle d'une autre troupe de gens qui était appelée hors d'eux. Le terme de la version française employé est assemblé. Mais dans le grec, c'est le mot ecclesia qui signifie rassemblement des citoyens dans un endroit public. Et c'est précisément ce terme que Jésus emploie pour désigner le style de vie de ceux qui seront son église. Un rassemblement. Au désert, le peuple de Dieu vivait en communauté et conduit par Dieu au travers de Moïse, qui était l'homme que Dieu trouvait beau. Actes 7, 20. Lorsque le disciple Étienne parle d'eux, il dit dans sa langue, « C'est lui, donc Moïse, qui, lors de l'église au désert, étant avec l'ange qui lui parlait, etc. etc. » C'est le mot « église » qui est donc employé pour désigner le peuple de Dieu qui était dans le désert avec Moïse. Donc, dans l'idée de Jésus, l'Église est une troupe de personnes qui vit ensemble et va vers un but commun que Dieu leur a donné, comme au temps de Moïse, dans le désert, avec le peuple juif. Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, 48. Et il a dit comment être parfait. « Si tu veux être parfait, dit Jésus, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Matthieu 19, 21. Les premiers disciples, les apôtres, les douze, ont tous fait cela. Et ensuite, ils ont dit aux nouveaux convertis de vendre leurs biens et de donner la somme à leurs pieds, aux pieds des apôtres. Actes 4, 34 à 35. Jésus avait dit de donner aux pauvres, et les apôtres, eux, disaient « Donnez-nous à nous ». Pourquoi ? Parce que eux, les apôtres, étaient des pauvres. Cela veut dire qu'ils n'avaient rien qui leur appartenait en propre, mais tout était en commun. Personne ne disait que quelque chose appartenait en propre. Actes 4, 32. Jésus leur a dit, avant son ascension, comment ils devaient organiser son Église. Et les apôtres ont obéi à Jésus et ne se seraient jamais permis d'organiser l'Église de Jésus comme ils l'entendaient eux-mêmes. Tous ceux qui venaient à Dieu vendaient leurs biens et vivaient en communauté. En cela, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui avaient eux-mêmes reçu cet enseignement de Jésus en personne. Ils vivaient dans l'obéissance aux ordres de Jésus, et Jésus faisait reposer une grande grâce sur eux tous. Actes 4, 33. Ils ne faisaient pas que d'opter pour une religion ou pour un style de vie indépendant, mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Actes 2, 42. Et s'ils vivaient tous en communauté, c'est parce que les apôtres les enseignaient ainsi. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Actes 2, 44. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Acte 2, 45. Comme ils vivaient en accord parfait avec l'enseignement des apôtres, la bénédiction de Dieu était sur eux et Jésus ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi Jésus ajoutait-il chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés? C'est parce que ceux qui étaient sauvés prêchaient chaque jour à ceux qui étaient perdus. Acte 2, 47. Ils étaient disciples. Ils étaient disciplinés. Ils avaient une discipline. Les premiers disciples pouvaient enseigner cela parce que eux-mêmes, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Marc 10, 28 à 31. Ils n'enseignaient pas aux gens de tout quitter sans leur dire pourquoi. C'était uniquement à cause de Jésus et de la bonne nouvelle. Et pour vous aussi, lorsque vous entrez dans la communauté, c'est à cause de Jésus, parce qu'il l'a dit, et à cause de la bonne nouvelle qu'il faut annoncer partout. Paul enseigne que celui ou celle qui veut être un bon soldat de Jésus doit se débarrasser de toute chose qui l'entrave dans le combat. 2 Timothée 2, 4. Il compare le chrétien à un athlète qui court vers un but et il enseigne que l'athlète n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. 2 Timothée 2, 5. Paul dit également que le travail fait selon les règles nourrit celui qui a peiné. 2 Timothée 2, 6. Ensuite, il dit à Timothée de comprendre ce qu'il vient de dire et que s'il veut comprendre, Dieu lui donnera l'intelligence en toutes ces choses. La règle a été donnée par Jésus et elle n'est plus suivie par les croyants d'aujourd'hui. Cette règle se trouve dans Luc 14, 33. Jésus dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Voici donc la règle à observer si vous voulez être couronné à la fin de votre voyage sur cette terre. Tous ceux qui croyaient vendaient leurs biens et vivaient ensemble. Ceux qui ne croyaient pas ne vendaient pas leurs biens. Au contraire, lorsque Jésus les appelle, ils répondent comme excuse pour ne pas le suivre. « Oh, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » L'autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » L'autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Remarquez que 2 sur 3 prient. Ils disent « Je te prie ». Mais ils ne sont jamais exaucés, ils ne sont pas excusés par Jésus, car Jésus s'irrite contre eux parce qu'ils aiment plus leur vie que l'invitation que Jésus leur fait de le suivre. Il envoie ses serviteurs le long des chemins et leur dit « Contraignez ceux que vous allez rencontrer d'entrer ». Luc 14, 16, 24. Cela veut dire que Jésus invite tous les gens à venir faire sa volonté, mais que la plupart trouvent des excuses pour ne pas le suivre, et il le prie même de les excuser. Mais à la fin des temps, dans les tout derniers jours, ceux à qui on ne pense pas viendront en foule dans la vision que Jésus a enseignée à ses disciples, et c'est pourquoi il dit expressément que les premiers invités seront les derniers et que les derniers invités seront les premiers. Si vous avez été invité par Jésus et que vous ne veniez pas maintenant, les prostituées et les voleurs vous devanceront dans le royaume de Dieu. Matthieu 10, 30, Matthieu 20, 16, Marc 10, 31. Dans Luc 13, 23 à 30, Jésus dit de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Il démontre que ce n'est pas simple de donner sa vie à Dieu. Il continue en disant que beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Pourquoi ne le peuvent-ils pas? Jésus le dit au verset 27. « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Qu'est-ce qu'un ouvrier d'iniquité? C'est un ouvrier injustes qui ne travaillent pas selon les règles établies par Jésus-Christ. Sa façon de travailler empêche les gens de connaître Jésus, car ils retiennent d'une façon inique, c'est-à-dire injustement, la vérité captive. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force, à savoir l'obéissance à la parole de Jésus. Romains 1, 18. Et la colère de Dieu se révèle contre eux. 2 Timothée 3, 1 à 5. Paul décrit les gens de notre époque comme des gens qui ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Ce qui fait la force de votre piété, c'est votre obéissance à la parole de Dieu. Ils peuvent avoir reçu un appel de Dieu et même avoir reçu des dons pour faire des miracles. S'ils n'obéissent pas, ils seront rejetés par Dieu. Pourquoi Dieu leur permet-il de faire des miracles en son nom? Parce que Dieu ne se repent pas de son appel ni de ses dons. Ce que Dieu a donné, il l'a donné, il ne le reprend pas. Romains 11, 29. Dieu les a appelés à le suivre en étant persévérants dans l'enseignement des apôtres, mais ils ont donné des excuses. Dieu les a appelés et leur a confié des dons. Voilà pourquoi ils feront des miracles en son nom et prophétiseront en son nom. Mais au jour du jugement, Dieu leur dira « Retirez-vous de moi, ouvriers d'injustice ». Pourquoi ? Parce qu'ils auront aimé l'appel de Dieu et aimé les dons spirituels, mais ils auront désobéi au donateur. Pour nous, si nous vivons en communauté, c'est pour obéir à Dieu. Une personne qui entre dans la communauté y entre pour obéir à Dieu et est donc bénie de Dieu à cause de son obéissance. Puis, elle reste dans la communauté pour rendre les autres heureux. Donc, premièrement, on entre dans la communauté pour être heureux. Deuxièmement, on y reste pour rendre les autres heureux. Les Actes des apôtres ont été écrits par l'apôtre Luc. Ce livre a été écrit à un chrétien qui s'appelle Théophile. Luc avait déjà écrit un livre qui s'appelle l'Évangile de Luc que nous connaissons. Luc dit à Théophile que dans son premier livre, donc dans son Évangile, il parle de tout ce que Jésus a commencé de faire et commencé d'enseigner. Acte 1, 1. Puis, Luc dit que, avant d'être monté au ciel, Jésus a enseigné à ses disciples et leur a donné des ordres. Vous ne trouvez pas ces ordres dans les évangiles. Acte 1, 2. Ce qui se trouve dans les Actes des apôtres a été écrit par Luc pour enseigner Théophile au sujet des ordres que Jésus avait donnés avant l'ascension. Et aussi pour que nous soyons enseignés de ces choses que Jésus a ordonnées. Et si nous sommes enseignés, c'est pour que nous persévérions dans cet enseignement de Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 à 17. Beaucoup de chrétiens se posent des questions et sont troublés dans leurs églises. Nous savons que Dieu veut que nous soyons des disciples accomplis, comme je viens de vous le dire. Jésus-Christ a dit « Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Luc 6, 40. Pour être comme Jésus, il faut que vous soyez disciples, disciplinés à faire ce qu'il dit, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. Que dit-il? Que si tu ne renonces pas à tous tes biens, tu ne peux pas être son disciple. Luc 14, 33. Ceux qui, du temps de l'Église primitive, vivaient l'enseignement des apôtres, acceptaient avec joie l'enlèvement de leurs biens personnels, Hébreux 10, 34. Ceux de Galates recevaient l'enseignement des apôtres, qui disaient « Faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne. Galates 6, 6. Et ensuite, les biens sont distribués à chacun selon les besoins. Les incrédules disent que seuls les disciples qui étaient à Jérusalem vivaient en communauté. Ils ont tort. Si les chrétiens d'alors ont été dispersés, ils sont partis partout pour prêcher Jésus et pratiquer l'enseignement des apôtres. Ils n'ont pas désobéi parce qu'ils étaient persécutés. Ils ont été persécutés parce qu'ils obéissaient à Jésus et aux apôtres. Car lorsqu'une personne veut suivre Jésus pieusement, lui obéissant, elle est persécutée. 2 Timothée 3, 12. Et ceux qui donnaient tout pour suivre Dieu ne manquaient de rien. Actes 4, 34. Car ils recevaient au centuple afin d'être riches pour Dieu. Luc 12, 21. Et ils ont été persécutés. Marc 10, 30. Il ne faut jamais perdre de vue que si Dieu dit de tout donner, c'est avec la promesse formelle que celui qui fait cela recevra au centuple dans cette vie présente tout ce qu'elle aura abandonné et qu'en plus il y aura des persécutions et la vie éternelle. Personne cherche à être persécuté, mais tous les chrétiens devraient chercher à faire ce que Dieu veut. Quand ils disent qu'ils cherchent la volonté de Dieu, ils la cherchent, c'est vrai, seulement ils la cherchent dans une fausse direction. Ils désirent que Dieu leur porte leurs difficultés, ils prient sans cesse pour être délivrés de toute entrave. Ce que Dieu veut, avant tout, c'est que vous vous occupiez premièrement du royaume de Dieu et de sa justice, c'est-à-dire de la vie du royaume où Jésus est le maître absolu, c'est-à-dire la communauté, et de la justice du royaume, c'est-à-dire de la gestion des biens matériels et spirituels de ce royaume. Car lorsque les biens sont déposés aux pieds des apôtres, ils sont ensuite distribués selon les besoins de chacun. Il est évident que les besoins de tous ne sont pas semblables, donc tout doit être fait dans la justice et selon les règles du royaume de Dieu. Pour la gestion des biens spirituels, ce sont les membres du corps de Christ qui manifestent leurs talents au bénéfice de la communauté, premièrement, et du monde perdu, ensuite. Pour vous qui vivez en communauté, vous savez que lorsque vous vous occupez premièrement du royaume et de la justice de Dieu, tout vous est donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Les chrétiens se plaignent souvent parce qu'ils n'ont pas ce que Dieu leur promet dans la Bible, mais eux-mêmes ne remplissent pas les conditions pour pouvoir recevoir ce que Dieu promet dans la Bible. Ce que Dieu leur reproche, c'est que tout ce qu'ils font, ils le rentrent chez eux. Ils ne s'occupent pas de la maison de Dieu, mais de la leur. Cela est injuste et déplaît à Dieu. Agée 1, 1 à 11. La maison de Dieu, c'est là où habite Dieu. Dans le psaume 133, 1 à 3, David parle très clairement de la vie communautaire ensemble. Il dit qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Il dit que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. L'approbation de Dieu demeure sur la vie de la personne qui approuve Dieu. L'approbation de Dieu demeure sur la vie de la personne qui approuve Dieu. Approuver Dieu, cela veut dire croire ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Les Corinthiens ne faisaient pas ce que Dieu dit, et Paul les reprend sévèrement. Ils avaient des maisons où ils vivaient, et certaines de ces maisons étaient très prospères, alors que d'autres étaient dans la pauvreté. Et Paul leur dit, « Vous louerai-je pour cela, et en cela je ne vous loue point. » 1 Corinthiens 11, 21 à 22. Les Corinthiens n'aimaient pas donner, et Paul était obligé de leur expliquer toutes choses, car ils étaient devenus durs d'entendement. Il va jusqu'à leur dire que Jésus a ordonner que ceux qui signifie que nous qui sommes quand même moins que Jésus, nous avons à nous lever pour accueillir l'aurore dans la prière. Beaucoup de chrétiens veulent faire les miracles que Jésus faisait, mais ils ne veulent pas payer le prix que Jésus payait. Dès le matin, le croyant doit avoir soif de Dieu. je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Psaume 119, 147. À la communauté, notre journée ne commence jamais d'emblée, gênée par les tâches multiples qui nous attendent. Chaque jour qui commence doit être dominé par le Seigneur. La première parole de la journée appartient à Dieu. Psaume 5, verset 4. Nous implorons son secours dès le matin. Psaume 88, 14. Éphésiens 5, 14 dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'élèvera. Voulez-vous être élevé ?» Jésus lui-même se levait quand il faisait encore sombre, et il priait. Marc 1, 35. Voulez-vous avoir les miracles que Jésus a faits et même de plus grands? Faites ce qu'il faisait. Jean 14, 12 à 15. Sans cela, c'est impossible. Premièrement, Jésus vivait en communauté avec ses disciples. Il nous a montré donc par sa vie un exemple. Les disciples ont enseigné tout ce que Jésus leur avait enseigné. Matthieu 28, 20. Les disciples ont été crus par certains et tous ceux qui ont cru vivaient en communauté, Actes 4, 32, et ceux qui voulurent profiter des biens des autres en vivant dans la communauté et en ne donnant qu'une partie de leurs biens et en mentant aux apôtres et donc au Saint-Esprit, moururent, c'est Ananias et Saphira, dans Actes 5, 1 à 11. L'apôtre leur dit qu'ils n'étaient pas obligés de vendre leurs biens, mais ils savaient fort bien que s'ils ne vendaient pas leurs biens, ils ne pouvaient pas vivre en communauté. Pour pouvoir vivre en communauté, c'est-à-dire dans l'Église de Jésus-Christ telle que Jésus l'avait ordonné, il fallait qu'ils vendent leurs biens. Pour avoir l'apparence de la piété, ils ont vendu leurs biens, mais en ont gardé une partie, et ainsi, ils ont triché, ils ont menti au Saint-Esprit en mentant aux chrétiens. Et ils sont morts le même jour. N'oubliez pas que la parole de Dieu n'est pas une biscotte, mais que la parole de Dieu est le pain de la vie. La parole de Dieu est la révélation pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Amen. Je pense que ce message-là est totalement inconnu des chrétiens actuels. Et si nous vivons ce message, c'est afin qu'il soit devant une prophétie. La vie en communauté telle que nous avons commencé à la vivre est une prophétie pour les chrétiens et aussi pour les inconvertis. Nous sommes les premiers ici à Paris, avoir ce désir de vivre bibliquement en communauté. Pas à vivre ensemble comme dans un hôtel-restaurant. Il n'est pas question simplement de pouvoir rentrer dans la maison, mettre les pieds sous la table, manger, ensuite aller dormir, se lever, manger et retourner à son travail. Mais il s'agit de vivre ainsi parce que Jésus veut que nous vivions ainsi, afin d'avoir les mêmes choses que les premiers disciples avaient. Au long des siècles, les chrétiens ont découvert des choses que Dieu a révélées à son peuple. Il y a eu les protestants qui ont commencé à reprêcher le salut par la foi, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Ça, c'était le message numéro un, n'est-ce pas? Puis, donc, ça a été la réforme. Et il y a eu ensuite les baptistes qui sont arrivés prêchant qu'il fallait obéir en étant baptisé par immersion à l'âge adulte. Puis, il y a eu les pentecôtistes qui sont arrivés avec ce message de Dieu des charismes, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit qui nous donne la puissance pour être témoins efficacement et accompagnés par des prodiges et des miracles. Mais le sceau qui n'est pas encore ouvert, c'est celui de la révélation de la communauté. Frères, sœurs, Dieu parle à chaque génération. Nous représentons ici une génération, une nouvelle race de chrétiens. Nous n'avons pas à imiter et à singer ce qui s'est passé autrefois. Nous devons aller plus loin, étant ouverts de cœur et d'esprit, pour recevoir ce que Jésus veut nous dire, afin de recevoir notre récompense. Si nous n'obéissons pas, nous n'aurons pas de récompense. Les premiers chrétiens, du temps de la Réforme, Dieu ne pouvait pas leur demander de vivre en communauté, puisque Dieu ne leur avait pas révélé. C'était écrit dans la Bible, mais c'était déjà tellement énorme pour eux de prêcher qu'on était sauvé uniquement par la foi. Pensez que des milliers sont morts, persécutés à cette époque, parce qu'ils ont prêché cela. Des gens ont dû quitter leur pays. Et savez-vous dans quel pays ce message du salut par la foi a été donné? Savez-vous quel pays Dieu a choisi pour révéler le message du salut par la foi? Il a choisi votre beau pays de la France. C'est la France que Dieu a choisi pour révéler le salut par la foi. Le roi de France qui vivait à cette époque a persécuté ceux qui ont prêché cela à tel point que ces gens ont dû quitter la France et partir en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Amérique. Et regardez ces pays, ce sont des pays, sauf l'Angleterre, parce que ça a foiré un peu là-bas, mais c'est surtout la Suisse, l'Allemagne et l'Amérique, sont des pays qui ont été bénis de Dieu parce que ces chrétiens ont été fermes. Et quand ils sont partis de la France, ils ont porté leur fortune avec eux. Ça a ruiné la France. Nous ne voulons pas ruiner notre pays, mais nous voulons obéir à Jésus. Et ceux qui obéissent à Jésus seront persécutés, nous le savons. Nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes, mais nous serons ensemble pour les affronter. Et si nous obéissons à Jésus, Jésus nous promet qu'il sera tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus ne l'a pas dit aux croyants, entre guillemets, mais il l'a dit à ceux qui se disciplinaient. Dans Matthieu 28, au dernier verset, les derniers mots de Jésus à ses disciples, c'est « Allez par tout le monde et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne craignez rien, je suis avec vous. Faites ce que je vous dis, le monde enragera contre vous, mais je suis avec vous. » On a chanté tout à l'heure « Prenez courage car le monde est vaincu. » Le monde est vaincu et tout ce que nous faisons glorifie Dieu. Tout ce que nous refusons de faire, que nous ne voulons pas faire, insulte Dieu. Maintenant, je vous dis le message. Je suis convaincant. Si je n'étais pas convaincu, je ne serais pas convaincant. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas être convaincu par mon esprit, mais de vous laisser convaincre par l'Esprit de Dieu qui enseigne ces choses au travers de moi. Dieu est obligé de se servir d'un canal humain. Quand Dieu est venu en homme sur la terre, il était en face du peuple et ce n'était pas plus impressionnant que quand c'est moi qui vous parle. Ils avaient en face d'eux un homme qui se prétendait rempli du Père et qui leur disait ce qu'ils devaient faire. La plupart n'ont pas cru. La plupart n'ont pas écouté. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. Dieu a donné des ministères et je suis au milieu de vous pour vous fortifier et pour que vous puissiez parvenir à la perfection, mais vous n'allez pas tous m'écouter, c'est sûr. Mais ceux qui auront écouté et qui auront donné leur bien pour vivre selon les ordres de Jésus recevront au centuple avec des persécutions et la vie éternelle. Maintenant, c'est à vous de choisir. La Bible dit que le fondement, c'est Jésus. Jésus est le fondement de votre vie, n'est-ce pas? Mais l'apôtre nous enseigne qu'il y a plusieurs manières de construire sur ce fondement. Il y en a qui construisent avec de la paille, il y en a qui construisent avec du chaume, il y en a qui construisent avec du bois, il y en a qui construisent avec de l'or. La Bible nous dit que quand nous serons jugés, nous ne serons pas jugés pour savoir si nous serons sauvés ou pas. Vous êtes sauvés parce que vous avez le fondement. C'est Jésus le fondement. Ce n'est pas le fait de vivre en communauté qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est Jésus mort sur la croix. Mais maintenant, comment allez-vous construire votre vie? Avec du foin ou avec le matériau noble, l'or éprouvé qui est la parole de Dieu? La Bible dit que quand vous passerez en jugement, vos œuvres passeront par le feu. Et tout ce qui sera charnel, tout ce qui sera établi dans la désobéissance de la parole de Dieu brûlera. Vos œuvres et tout ce que vous aurez fait passera par le feu. Ceux qui auront construit du chaume, du bois, de la paille, du foin, ça brûlera. Mais ceux qui auront construit avec de l'or, la Bible dit que leur œuvre les suivra dans l'éternité et ils auront des récompenses. Est-ce que vous voulez vivre sur cette terre dans le chagrin parce que vous avez des chagrins, dans les problèmes parce que vous avez des problèmes? J'en ai, nous en avons tous. Est-ce que vous voulez vivre dans cette vie avec tous ces problèmes et en plus, quand vous arrivez devant Dieu, être dépourvu de vos récompenses? Ou est-ce que vous voulez vivre avec Dieu sur cette terre dans l'obéissance pour recevoir au centuple tout ce dont vous avez besoin pour votre vie et en plus des récompenses dans le ciel? C'est vous qui choisissez le style de vie éternelle que vous voulez. Le fait d'obéir vous assure la récompense. Le fait de ne pas obéir vous assure que vous pouvez être sauvé, mais comme au travers du feu. C'est écrit. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Réfléchissez, priez, mettez-vous devant le Seigneur. Cet après-midi, après le repas, j'ai encore d'autres textes à vous lire au sujet de ce que nous faisons dans la communauté, quels sont nos buts, pourquoi nous vivons en communauté. Comme je vous dis, ce n'est pas simplement pour prier le matin et puis c'est tout, mais c'est avec des buts bien précis qui sont des buts bibliques, parce que nous ne voulons pas vivre simplement selon nos idées, mais vivre selon les ordres que Jésus a donnés aux apôtres. Parce que n'oubliez pas que quand vous lisez les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous lisez ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Et quand vous lisez les lettres des apôtres, et particulièrement les actes des apôtres, c'est la suite et la fin de ce que Jésus a ordonné à ses disciples depuis le jour où il est ressuscité jusqu'au jour de son ascension. Là, il n'y a que très peu de détails dans les évangiles, mais tout se trouve dans les épîtres et dans les actes des apôtres. Et c'est ce que nous allons voir encore cet après-midi. Nous avons quelques textes à lire, nous aurons la possibilité de parler, de réfléchir, de prier. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous aurons tout cela. Donc. Voilà, je pense que nous n'allons pas maintenant ouvrir les débats tout de suite, mais qu'il faut avaler un peu ce que je vous ai dit, parce que ce n'est pas aisé, n'est-ce pas? Je vais prier maintenant et puis nous allons prendre le pain et le vin ensemble. Chérie, si tu veux venir vers moi. Tu vas prendre le pain et tu pries pour le pain. Moi.